Lundi 17 juillet, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle édition du Débrief. C'est Alexis Gagnon au micro. Nous allons débuter dans quelques instants avec les revues de presse du jour. Deux interviews aujourd'hui en ce 17 juillet. Till Phelps Bondaroff est avec nous pour parler de pêche illégale, un sujet qu'il connaît très bien pour avoir navigué dans les mers de l'hémisphère sud à bord du célèbre navire Sea Shepherd. Pour ceux qui l'auraient manqué vendredi, nous allons rediffuser en fin d'émission la conversation que j'ai eue avec notre chroniqueuse régulière Marie-Hélène Bourret à propos du remplacement des Parkades de Victoria par du logement social, du logement abordable. Cet échange était inspiré d'une tribune qu'avait publiée dans le magazine Focus la chroniqueuse Leslie Campbell. Nous accorderons également aujourd'hui une attention particulière à la situation des incendies qui ravagent certains secteurs de la Colombie-Britannique. Alors, il y a beaucoup de contenu en perspective dans cette édition. Vous le constatez, accrochez-vous bien à la fréquence 107.9 FM. Nous allons amorcer cette édition dans un instant avec la revue de presse internationale. Bonne émission à tous. Mon nom est Alexis Gagnon, je vous accompagne au cours de la prochaine heure avec les infos du jour, infos du monde, infos du Canada et de Colombie-Britannique. Nous allons débuter tout de suite avec cette revue de presse internationale. Dans les colonnes du média indépendant Mediapart, Arabie Saoudite, ici, promouvoir la démocratie est un crime. C'est un article que signe René Bachmann. Alors que le royaume Wahhabite, le royaume d'Arabie Saoudite, entend durcir le blocus imposé au Qatar et affirmer ainsi sa domination sur la région, des militants saoudiens des droits humains dévoilent à Mediapart la vraie nature d'une tyrannie qui décapite au sabre et interdit aux femmes de sortir en public sans tuteur masculin. Donc si vous voulez avoir un compte-rendu de la part des Saoudiens dissidents eux-mêmes, un compte-rendu sur l'allié du Canada, qu'est l'Arabie Saoudite, allié de l'OTAN, allié des États-Unis. On parle ici de tyrannie et de dictature. Les droits humains n'existent pas en Arabie Saoudite et Mediapart propose ici un compte-rendu qui est nourri à partir de témoignages de Saoudiens qui sont dissidents dans leur propre pays. Alors, je rappelle le titre, Arabie Saoudite, ici, promouvoir la démocratie est un crime, c'est dans Mediapart. Nous allons aller du côté du portail Euractiv. C'est une dépêche rédigée conjointement avec l'AFP, l'agence France-Presse. Les négociations du Brexit entrent dans le vif du sujet. L'Union européenne à 27 et le Royaume-Uni entrent dans le vif du sujet lors d'un deuxième round de négociations pour déterminer les conditions de leur divorce au moment où Londres se met progressivement en ordre de bataille. Après une session inaugurale au cours de laquelle les deux parties se sont accordées sur le calendrier des rencontres et les sujets à régler en priorité, les deux camps vont pouvoir commencer à comparer leurs positions de négociation sur les dossiers les plus épineux, droits des citoyens et solde des comptes, mais aussi la question irlandaise. Vous trouverez ça dans le portail euractiv.fr. C'est une dépêche coécrite avec l'agence France Presse. Un article sur l'énergie nucléaire aperçu pour vous dans la revue Challenge à l'adresse challenge.fr. Pourquoi le nucléaire est devenu un marché de niche? Confronté au boom des renouvelables et au surcoût des réacteurs de troisième génération post-Fukushima, le secteur du nucléaire est devenu un marché de niche. C'est un article que signe Nicolas Thiel dans Challenge. Il demande « Est-ce une débandade ?» En mai, la Suisse décidait, au terme d'un référendum, de ne pas prolonger la durée de vie de ses centrales nucléaires. La Confédération rejoignait une cohorte de pays ayant dit non à l'atome. Allemagne, Italie, Autriche, Taïwan. Le mois suivant, la Corée du Sud annonçait qu'elle allait réduire la part du nucléaire dans son mix électrique. « Je vais abandonner tous les projets de nouveaux réacteurs en cours et je ne prolongerai pas la vie des réacteurs actuels », déclarait le nouveau président de la Corée du Sud. Confronté au boom des renouvelables et au surcoût des centrales de troisième génération post-Fukushima, le nucléaire traverse une mauvaise passe. C'est le propos de cet article de Challenge, le nucléaire qui est en recul dans le monde. Le titre « Pourquoi le nucléaire est devenu un marché de niche ?» Comme il est question de pêche illégale aujourd'hui dans cette édition du 17 juillet, j'ai pensé vous mentionner cette brève qui paraît dans le portail novetic.fr et c'est une nouvelle annonçant que Greenpeace se réjouit d'avoir fait plier Thai Union, la maison mère de l'entreprise Petit Navire, sur la question de la surpêche et du travail forcé. Travail forcé, épuisement des ressources de thon, pêche illégale, le numéro 3 mondial du poisson en conserve, Thai Union s'engage vers une pêche plus durable et responsable à la suite d'une campagne de Greenpeace. Selon le PDG de Thai Union a complètement saisi son rôle de leader pour un changement positif. Thai Union, la maison mère de Petit Navire, une marque qui est distribuée notamment en France, vient de prendre des mesures contre la pêche illégale, la surpêche et les conditions de travail des personnes travaillant tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, des mesures prises sous la pression d'une campagne menée par l'association Greenpeace. Dans cette édition, lors de l'entretien que m'accorde Teal Phelps Bondaroff, il sera question de surpêche et notamment de travail des enfants et même d'esclavage. Alors c'est une bonne nouvelle qui coïncide un petit peu avec cette interview du jour dans le débrief. J'ai cru bon vous la mentionner. Maintenant dans Rolling Stone, un article sur Eric Holder, qui était l'ancien ministre de la Justice d'Obama. Il venait de Wall Street, il a été ministre de la Justice sous Obama, et maintenant il retourne à Wall Street. C'est le phénomène des portes tournantes, si vous voulez, et c'est un phénomène, bien sûr, que l'on constate dans tous les gouvernements occidentaux. Des gens d'une industrie vont travailler dans le gouvernement quelque temps, ils protègent cette industrie et retournent y travailler un petit peu plus tard. Et Rolling Stone, dans cet article, fait vraiment le portrait de ce phénomène à travers la personnalité de premier plan d'Eric Holder. Il a été ministre de la Justice d'Obama. Je vous donne le titre, Eric Holder, Wall Street Double Agent Comes in from the Cold. Donc, Eric Holder, un agent double, si vous voulez, qui travaillait réellement pour Wall Street tout au long de son mandat en tant que ministre de la Justice d'Obama. Vous savez qu'aucun grand dirigeant de Wall Street n'a été accusé suite à la débandade, à la déroute complète de Wall Street en 2008. La crise financière qui a été le produit des abus de Wall Street n'a entraîné aucune accusation. Eric Holder était là, entre autres, pour s'en assurer. Donc, il travaillait pour Wall Street et c'est ce qu'explique très bien cet article de Matt Taibbi dans le Rolling Stone à l'adresse rollingstone.com. Voilà, c'est tout pour la revue de presse internationale. Le temps nous presse, on va se rendre à la revue de presse nationale ainsi qu'à la revue de presse provinciale dans laquelle il sera question, bien sûr, des feux de forêt. À tout de suite. Vous êtes dans l'édition du 17 juillet et du 18 juillet de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM dans la grande région de Victoria. Alexis Gagnon au micro. Nous passons aux nouvelles nationales et provinciales. Rendons-nous tout de suite dans le fil de la presse canadienne. Renégociation de l'ALENA. Le président Trump précisera bientôt ses intentions. C'est en date du 17 juillet, après avoir décrié l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, ou le NAFTA, si vous préférez, pendant 2 ans. Donald Trump est sur le point d'expliquer davantage son point de vue sur le sujet. Le président américain devait publier aujourd'hui lundi la liste de ce qu'il souhaite modifier dans cet accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Donc, on attend de voir le président Trump préciser sa pensée sur l'ALENA. C'est dans le fil de la presse canadienne sous la plume du journaliste Alexander Panetta. Nous allons maintenant nous déplacer dans les colonnes du journal Le Devoir à l'adresse ledevoir.com. Les leaders autochtones font pression sur le Conseil de la Fédération. C'est un article signé par le journaliste Marco Belair Cirino. Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, l'APN, Perry Bellegarde, le président inuit Nathan Obed et le président du ralliement national des Métis, Clément Chartier, brillent par leur absence à la rencontre annuelle des premiers ministres des provinces et des territoires et des dirigeants autochtones nationaux. Aujourd'hui, lundi, à Edmonton, en Alberta, les dirigeants des 3 principales organisations autochtones du Canada demandent chacun un siège en bonne et due forme au Conseil de la Fédération canadienne, qui se réunit 2 fois par année. D'ici là, Ces trois représentants des nations autochtones refuseront net de participer à toute rencontre organisée en marge de ce forum des 13 premiers ministres des provinces et territoires canadiens. Et cet article cite notamment le président de la nation métisse, Clément Chartier, qui déclare à nouveau sa demande de participer à toutes les rencontres intergouvernementales canadiennes à titre de représentant d'un gouvernement à part entière, soit le Conseil national métisse. Donc, une meilleure représentation est souhaitée de la part des leaders autochtones au Conseil de la Fédération canadienne. C'est dans le journal Le Devoir. Affaires autochtones, toujours cette fois dans le fil de la presse canadienne. On avait touché ce sujet dans quelques éditions précédentes du débrief. La statue du fondateur de Halifax, jugée génocidaire, a été recouverte d'une bâche. Les protestateurs qui voulaient déboulonner la statue du controversé fondateur de Halifax crient victoire après que le monument à l'effigie de l'ancien gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Edward Cornwallis, eût été recouvert d'une bâche. Des dizaines de personnes, dont le maire de Halifax, Mike Savage, qui, plus tôt cette semaine, s'était inquiété de la planification d'actions violentes, ont assisté au recouvrement de la statue par un camion de la ville. Un événement Facebook invitait les manifestants à retirer pacifiquement la statue de bronze, mais les organisateurs n'avaient pas précisé comment ils comptaient procéder. Les protestataires ont finalement collaboré avec les autorités municipales samedi pour la dissimuler derrière une bâche. En tant que gouverneur britannique de la Nouvelle-Écosse, Edward Cornwallis avait fondé Halifax en 1749, peu avant d'accorder des primes en échange de scalps autochtones dans la foulée d'une attaque contre les colons britanniques. La communauté Mi'kmaq assimile ces actions à une forme de génocide. C'est dans le fil de la presse canadienne. À Montréal, un mandat d'arrestation a été émis contre un imam jordanien. Un article signé par Gabriel Duchesne et Vincent Larouche dans le journal La Presse. Un mandat d'arrestation a été lancé contre un imam jordanien soupçonné d'avoir tenu des propos haineux contre les Juifs alors qu'il était l'invité d'une mosquée montréalaise cet hiver. Vous aurez ça dans le journal La Presse. Toujours dans le journal La Presse, NPD Jagmeet Singh récolte l'appui d'une première députée du Québec. Jagmeet Singh, c'est ce député ontarien de confession sikh qui espère succéder à Thomas Mulcair à la tête du NPD canadien. Jagmeet Singh récolte un premier appui au caucus québécois du NPD, écrit le journaliste Hugo de Grandpré dans le journal La Presse. Il s'agit de la députée Hélène Laverdière. Elle a annoncé aujourd'hui lundi qu'elle se range derrière l'avocat et politicien ontarien dans la course à la direction pour succéder à Mulcair. Et nous allons en venir aux nouvelles de Colombie-Britannique et aujourd'hui on va parler des feux. On va se concentrer sur les nouvelles qui font état de la situation. Dans le fil de la presse canadienne, tout d'abord, la qualité de l'air se détériore en Colombie-Britannique. Environnement Canada a émis un bulletin spécial concernant les impacts de la fumée émanant des incendies de forêt en Colombie-Britannique. Cette fumée rend la qualité de l'air mauvaise et réduit la visibilité dans une bonne partie de la province, du nord au sud, sauf pour une portion située le long des côtes. Il est conseillé à la population d'éviter les activités extérieures qui demandent de grands efforts. La mauvaise qualité de l'air est particulièrement nocive pour les nourrissons, les personnes âgées et les personnes qui souffrent déjà de problèmes de santé. Donc voilà un article qui rappelle les infos vitales, les infos de base concernant la qualité de l'air et ça s'adresse bien sûr aux gens qui sont dans les secteurs concernés de l'intérieur de la province. Feux de forêt en Colombie-Britannique, 36 600 personnes déplacées. C'est la manchette que nous fournit Radio-Canada dans la section Colombie-Britannique de son portail. La situation des feux de forêt se détériore en Colombie-Britannique alors que des milliers d'habitants de Williams Lake, dans le centre de la province, ont été forcés de quitter rapidement leur résidence. Des vents ont attisé un brasier qui a franchi le fleuve Fraser au cours de la fin de semaine et qui brûlait dimanche à 7 km à peine au nord de Williams Lake. Les autorités ont ordonné l'évacuation de 11 000 habitants avant que le feu n'atteigne l'autoroute 97 qui traverse la ville du sud au nord. Par ailleurs, un nouvel incendie a forcé l'évacuation de plus de 300 maisons samedi soir dans la région de Lake Country au sein de la vallée de l'Okanagan. Les pompiers disent que l'incendie, situé à 30 km au nord de Kelowna, s'est propagé à partir d'un petit feu d'herbe. Et les pompiers estiment que le feu recouvre maintenant 30 hectares. Selon les autorités, plusieurs maisons auraient été détruites par cet incendie. Un centre d'urgence pour les résidents évacués a été ouvert à Kelowna et d'autres habitants de la région doivent être prêts à quitter leur logement à tout moment. Donc un total de 36 600 personnes déplacées en Colombie-Britannique à cause des incendies. Vous trouverez ça dans le portail de Radio-Canada. Il y a également un reportage en vidéo dans cet article que vous pouvez regarder pour vous mettre au fait des dernières informations. Donc, le portail francophone de Radio-Canada Colombie-Britannique est une excellente source d'informations actuellement sur la situation des feux de forêt en Colombie-Britannique. Si vous devez vous déplacer, je vous recommande le portail du ministère des Transports de la province que l'on trouve à l'adresse tranbc.ca, tranbc.ca. Il y a une section spéciale consacrée aux feux avec les derniers communiqués, les indications sur les routes qui sont fermées. Vous pouvez également vous rendre sur le web, consulter le portail Drive BC. Sur Twitter, le mot-clé à surveiller, c'est BC Wildfire. Au pluriel ou au singulier, vous aurez toutes les nouvelles les plus récentes en rafraîchissant votre page. Vous pouvez également suivre le compte BC Wildfire, donc @BC Wildfire, pour suivre les informations que fournissent les autorités d'heure en heure sur l'évolution des différents incendies qui ravagent l'intérieur de la province. Voilà, c'est tout pour cette revue combinée des informations nationales et provinciales. Nous allons nous rendre aux interviews du jour dans un instant. Je signale en passant que le jazz que l'on entend dans les pauses de l'émission aujourd'hui nous vient de l'artiste Benjamin Deschamps. C'est tiré d'un album récent intitulé « Demi-nuit ». Et pour les interviews, elles suivent, je le disais dans un instant, nous aurons d'abord en rediffusion cette interview chronique, discussion avec Marie-Hélène Bourret, qui a été diffusée une première fois vendredi. Je la remets aujourd'hui car elle était très intéressante, très informative. C'est dans un instant, donc à propos de logement social à Victoria. Tout de suite après, nous aurons l'intervention de Teal Phelps Bondaroff à propos de pêche illégale à l'échelle mondiale. Donc, on connaissait Teal à titre de chroniqueur politique. C'est aussi un chercheur en matière de pêche illégale. Il a fait d'importants travaux sur la question lorsqu'il était aux études. Donc, il va nous livrer tout son savoir là-dessus et quelques anecdotes de son séjour à bord du Sea Shepherd, un célèbre navire qui a croisé dans l'hémisphère sud. Bonne écoute et on se retrouve tout à l'heure pour le mot de la fin. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Alexis.
C'est un plaisir de te retrouver en studio ici au 12-18 Langley. Donc aujourd'hui, on parle du magazine gratuit Focus, un mensuel qu'on a la chance d'avoir ici à Victoria. C'est un mensuel très dense en idées, en projets. C'est un mensuel qui s'intéresse à la culture et aux gens de Victoria. Le nouveau numéro juillet-août est sorti récemment. On a repéré tous les deux un article qui
a attiré notre attention,
c'est le moins qu'on puisse dire. Espérons qu'on va pouvoir y faire justice aujourd'hui. C'est un article qui parle de vivre ensemble, vivre en société, de justice sociale. C'est signé par Leslie Campbell, c'est une chroniqueuse du magazine gratuit. Focus en passant que vous pouvez trouver chez votre coiffeur, votre café, dans différentes boutiques du centre-ville.
C'est gratuit, hein, on le dit.
C'est ça, c'est gratuit. On a aussi le contenu en ligne. Je suis allé consulter quelques articles en ligne récemment aussi. Et donc, cet article parle d'accès au logement.
Ouais.
On sait qu'on a un problème d'accès au logement très criant ici à Victoria et à l'échelle de la province.
Ouais.
Peut-être quelques chiffres, Marie-Hélène?
Ben, en fait, en décembre dernier, décembre 2016, on comptait 0,5 de 1% de logements disponibles. Alors, 0,5%, on n'a pas le choix. Là. Ce qui est là, c'est ce qu'on doit prendre oui. si on est dans la rue.
Et les propriétaires dictent leurs conditions.
Absolument. C'est un peu comme dans le marché de la vente et de l'achat de la maison. Hein, c'est un voilà. marché de vendeurs. C'est pas un marché d'acheteurs. C'est la même chose pour les logements. On sait aussi, selon le dernier point in time qui a été fait en 2016, en février 2016.
Ça, c'est une étude auprès...
C'est une étude... Ben, en fait, c'est une étude pan-canadienne, mais dans chacune des localités qui veulent bien y participer. Et c'est fait auprès des gens qui sont sans-abri dans une nuit de février 2016. Le prochain est en février 2018. On a recensé 1347 personnes sans-abri, c'est-à-dire des gens qui étaient soit dans des refuges, dans des abris, directement dans la rue ou dans des maisons de transition. Parce qu'ils n'ont pas la définition du sans-abrisme, c'est qu'on n'a pas de prospect, de possibilité de logement. Alors, on est sans-abri oui. à ce moment-là. C'est plus que ça les vrais chiffres, parce que il y avait 13 organismes qui offrent des abris, des refuges, qui n'ont pas participé à cette chose-là, principalement parce que c'est des abris pour les femmes battues, pour les l'adolescent en fugue, qui veulent pas nécessairement que ça soit connu.
Dans cet article, il est question, bien sûr, des sans-abri, du problème d'itinérance à Victoria, mais il est aussi question des travailleurs à petits revenus, des travailleurs à revenus modestes.
Ben, en fait,
et c'est justement dans cette optique-là que l'auteur Leslie Campbell a écrit sa chronique.
Ouais.
Je pense qu'elle est très claire en disant que la mère de Victoria, Lisa Helps, et toute la classe politique, les leaders de la communauté reconnaissent qu'il y a un problème.
Effectivement.
Tout le monde reconnaît qu'il y a un problème.
Oui.
La chroniqueuse dit les efforts sont insuffisants.
Oui.
Et pour revenir aux chiffres, on peut peut-être en donner un dernier.
Oui.
Une récente étude a démontré que 50% des foyers dans la grande région de Victoria ne peuvent se permettre que 13,7% des maisons.
Alors, ce que ça veut dire, c'est que parmi les prix des appartements, des maisons qui sont disponibles,
oui.
ben, c'est pas tout le monde qui est capable d'accéder à ça. Il y a juste 13% des logements qui sont payables, qui sont accessibles.
Voilà.
Pour la moitié de la population. Donc, ces gens-là, c'est important de le dire, sont à risque de devenir sans-abri.
Oui, c'est ça, les petits revenus, les revenus
oui.
modestes.
Les travailleurs pauvres.
Il y a des gens qui vivent dans leur voiture, là, parce
oui.
que et qui travaillent.
Et qui travaillent.
Qui ont un emploi.
Ben, elle parle justement de ces salaires qui sont salaires minimum ou un petit peu plus élevés.
À peine.
À peine.
Oui.
Et les gens ont de la difficulté à joindre les deux bouts.
Alors, il y a des efforts qui ont été consentis par
oui.
la ville. On peut en citer quelques-uns.
Oui.
La chroniqueuse le fait d'entrée de jeu dans son papier. La ville a notamment retiré la nécessité de rezoner les jardins.
Oui.
Donc, les gens qui veulent ajouter un petit logement...
Dans leur sous-sol.
Dans leur sous-sol ou dans leur cour.
Oui.
C'est facile de faire. Le processus administratif n'est plus lourd.
Ouais.
Désormais.
Ouais.
On a aussi approuvé un moratorium sur les permis de démolition des logements locatifs.
Ouais.
On a également, parce qu'on accordait ces permis à gogo.
Oui, et les gens transformaient à ce moment-là en condominium de
et
luxe.
Et voilà, c'était une transition du jour au lendemain et les gens se retrouvaient...
À la rue.
Tout simplement. On a aussi débattu de l'opportunité éventuellement de taxer les propriétés laissées vacantes en attendant un achat
éventuel. Comme on
éventuel.
Fait en Vancouver maintenant, il y a une taxe qui est mise pour ces appartements vides.
Alors, ça n'est pas encore fait,
non.
mais... C'est envisagé.
Oui.
On a aussi accéléré le processus de demande de développement de loyers locatifs.
Oui.
Donc c'est plus facile de passer à travers les étapes pour
oui.
Bâtir du logement locatif à Victoria. C'est la moindre des choses.
Oui.
Il y a une demande criante.
Mais encore là, est-ce qu'ils seront abordables? C'est une autre question. Il va falloir qu'il y ait une étape de plus qui soit faite par le CRD.
Voilà. Et cette chronique mentionne aussi qu'avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement en Colombie-Britannique, ça pourrait
Tous les espoirs sont permis.
Tous les espoirs sont permis. On vit d'espoir actuellement.
Ouais.
La chroniqueuse rappelle que les travailleurs revenus modestes, on les croise tous les jours. Ce sont les gens qui nous servent le café. Ce sont
24 000 personnes ici au centre-ville de Victoria.
Voilà.
Tourisme, hôtellerie, restauration, coiffeuse, les gens qui travaillent dans le secteur des petits magasins, par exemple, et tout ça. Ces gens-là sont au salaire minimum ou un petit peu plus élevés.
Oui.
Le fait d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure au lieu de, je sais pas, 10,85, je crois.
Actuellement, c'est 10,85, ouais. Oui.
Je pense pas que ça règle le problème si on continue à louer un bachelor 1 250 $ par mois.
Très bien dit. C'est d'ailleurs le propos de la chroniqueuse.
Parce que pour qu'un appartement soit considéré comme abordable, il faut qu'on ne dépense pas plus que 30% de notre revenu avant taxe pour le logement. Alors, quelqu'un qui gagne le salaire minimum à 40 heures par semaine, ça veut dire que ça serait à peu près 750 $ par mois.
Oui.
Moi, je suis chanceuse, j'ai un bachelor à 700 $ par mois, tout inclus.
Oui, et mais quand on dit bachelor, c'est gens. Un 2,5, c'est ça?
Non, même pas, c'est une pièce.
C'est une pièce, un studio?
C'est un studio.
D'accord.
Mais il y en a pas beaucoup de ça, là.
On est beaucoup dans ce cas-là, effectivement, cet article-là a des échos parmi tous les travailleurs à revenus modestes qui sont si nombreux et que la chroniqueuse décrit. Donc, c'est pas une abstraction, là, ces gens-là.
Non.
Ils existent et ils sont au service de la population, ici même, au centre-ville de Victoria. Et on les pousse à la rue chroniquement.
Ouais. Et un des problèmes aussi que l'on voit, c'est que les gens pour venir travailler au centre-ville doivent venir je sais pas moi de Royal View, de Mill Bay même, de Duncan.
Ouais.
Il y a des gens qui n'ont pas de travail dans leur endroit de résidence, doivent venir vivre ici. Ils arrivent avec leurs autos, il y a l'essence, alors tout ça rentre en ligne de compte. Et travailler ici, c'est pas une option. Dormir ici, c'est pas une option parce que évidemment c'est trop cher.
Et pour ces gens-là, c'est pas un problème de chômage, c'est un problème de pouvoir d'achat.
Oui.
À un moment donné, on travaille 40 heures,
on
rend service à la société d'une manière ou d'une autre, mais la société ne nous permet pas de vivre correctement.
Il y a un terme bien clair qui est utilisé maintenant, c'est le travailleur pauvre.
Voilà, le travailleur pauvre.
Alors, les gens, il y a souvent un stigma, et moi, je l'ai rencontré dans l'étude qu'on a faite avec la Société francophone de Victoria dans le programme Vers toi, comprendre pour mieux aider. C'est que on s'imagine souvent que les gens qui sont à la rue, ben, c'est des gens qui font un dolce vita, qui ont des problèmes de drogue. Mais en fait, les problèmes de drogue et d'alcool dans la rue, c'est pas si fréquent que ça par rapport à notre image qu'on en a. Il y a beaucoup de gens, j'en ai rencontré, même dans la communauté francophone ici, qui sont en attente de logement social depuis 3 ans.
Oui.
Et pourtant, qui travaillent.
Oui, alors le travailleur pauvre, une espèce de sous-prolétariat qui n'est pas pris en compte malheureusement, et tout ce préambule, Marie-Hélène, pour arriver
à une solution
qui est proposée par la chroniqueuse, parce que rappelez-vous, la chroniqueuse d'entrée de jeu a dit que les solutions étaient insuffisantes, donc il faut continuer à lutter contre cette crise du logement.
Mais il y a un problème.
Qu'est-ce qu'elle propose?
Ben, en fait, un des problèmes que l'on retrouve quand on veut construire, c'est le manque de place. Hein, d'abord, les terrains, les prix, on n'en parle même plus. Je veux dire, c'est incompréhensible. On est sur une île.
Oui.
On est dans une ville qui est de la difficulté. On veut empêcher d'une certaine façon l'étalement urbain. Parce que on vit beaucoup économiquement sur notre tourisme qui vient pour l'environnement, pour les forêts et tout.
Alors la solution va peut-être
c'est
vous
la
étonner.
Ville. C'est la ville. Et où en ville peut-on trouver des espaces? Ben, c'est dans les stationnements hors terre.
Les stationnements à étage.
Les stationnements à étage hors terre.
Qu'on appelle parkades
ici en anglais. Donc les stationnements extérieurs à étage. Et y en a-tu beaucoup de ça?
Il y en a 5 à Victoria. Merci Marie-Hélène. D'ailleurs, je vais citer le titre de l'article. Take down a parking lot and put up a paradise. Donc, démolissez un stationnement à étage et établissez un petit paradis.
Oui. Alors, pourquoi un paradis? Ben, imaginez-vous que vous êtes dans la rue.
C'est une boutade, hein?
Oui, mais pourquoi? Mais je trouve que c'est vrai parce que pour quelqu'un qui est dans la rue ou qui vit dans sa voiture avec ses 2 enfants, Même une petite pièce, c'est opératif.
Effectivement.
Vous avez aucune idée de la douleur, du stress que ces gens-là vivent. Alors, elle, ce qu'elle dit, c'est que ces parkades, oui, parce que c'est le mot qu'on utilise ici, appartiennent à la municipalité.
Oui.
Il y en a plusieurs qui ont été construits il y a plusieurs années et qui, d'ici une année ou deux, devraient être démolis d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ne correspondent pas aux normes en compte les tremblements de terre.
Exact. Donc ça, c'est une des préoccupations. Donc ça ajoute à la au postulat de la chroniqueuse voulant qu'on doit faire quelque chose.
Oui.
Mais on imagine déjà les critiques des commerçants.
Oui.
Qui tiennent absolument à ce que les automobilistes puissent venir faire leurs emplettes, leurs achats au centre-ville. Mm-hmm. On imagine aussi les critiques faciles qui disent on va pas non plus donner des logements comme ça.
Ouais, c'est ça.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est revenir en arrière et rappeler qu'au centre-ville, on a une portion de la population qui est au service des autres.
Oui.
À travers des petits
boulots.
Des petits boulots essentiels.
Des parfois deux ou trois jobs, comme toi, comme moi, comme
c'est
la plupart des gens qu'on connaît.
Et ces gens-là, au nombre de 24 000 seulement dans le centre-ville, ont besoin de se loger.
Ben oui.
Et c'est d'une logique, je veux dire, basique, là. Il faut loger ces gens-là. Même les commerçants le reconnaissent.
Oui.
Si tu prends une ville comme Whistler, qui a des problèmes de logement énormes, ça atteint des proportions telles que les commerçants réalisent l'importance du logement.
Ben oui.
Lorsque les gens vont camper en forêt durant l'hiver pour pouvoir travailler à Whistler, on a un problème même de santé publique.
Oui.
Ça devient dangereux pour tout le monde.
C'est un petit peu plus froid que Victoria.
Effectivement.
Hein? Mais écoute, la solution, évidemment, il va y avoir des détracteurs. Hein?
C'est ça.
Les détracteurs vont dire, ben oui, mais où est-ce qu'ils vont stationner? Alors, qui nous empêche de faire des stationnements souterrains? Qui nous empêche de faire des lignes d'autobus réservées depuis des parkings, comme ça se fait à Québec, comme ça se fait à Montréal, où il y a des parkings réservés pour les utilisateurs des transports en commun?
Oui.
C'est une espèce
en périphérie.
En périphérie.
Oui.
On voit facilement, par exemple, je sais pas, moi, au bout d'Admiral, Mackenzie, dans ce coin-là.
Oui.
Et pourquoi ne pas avoir de ces endroits-là? Pourquoi ne pas utiliser les voies de chemin de fer qu'on a, qui n'ont pas été détruites, qui parcourent l'île en entier? Le gouvernement fédéral donne des sous pour les infrastructures.
Oui.
On serait capable d'aller à ce moment-là, de réduire notre trace carbone, notre empreinte carbone, en ayant, pourquoi pas, des trains électriques? Hein, je veux dire, on n'est pas obligé de retourner au train à vapeur là avec du charbon. Donc, on pourrait aller chercher ces gens-là, avoir un train de banlieue, comme on a dans les grandes villes maintenant.
De toute manière, on cherche à réduire l'empreinte carbone de la ville.
Oui.
Ça, c'est une volonté 37% avancée.
37% de la pollution de l'empreinte carbone de la Colombie-Britannique vient du transport.
Oui.
Ici, sur l'île, en Colombie-Britannique, on n'a pas de loi sur les minounes. Alors, toutes nos voitures de 1942 qui ont pas de système d'échappement, de catalyseur pour l'échappement, produisent un supplément encore d'empreinte carbone. Donnons des structures de transport en commun. Lorsqu'on construit des bâtiments, comme par exemple, supposons qu'on prend le parking qui est juste ici sur Yates.
Oui, Yates.
Construisons une tour à étage, parce que maintenant, avec les nouvelles normes du bâtiment, on peut construire des tours à étage qui sont contre les tremblements de terre, qui rendent les tremblements de terre plus ou moins sécuritaires, mais enfin, tu sais ce que je veux dire.
Oui.
Mettons de la géothermie.
Oui.
Faisons un toit vert.
Puis il serait pas interdit d'inclure un petit stationnement dans cette tour.
On peut faire un stationnement souterrain là, sans aucun problème.
Ouais.
Et si ce sont des gens justement qui travaillent au centre-ville, ils n'auront pas besoin de se déplacer. Ils n'auront peut-être pas besoin de voiture.
Voilà. Donc ça, il faut tempérer les effets de cette crise qui est vraiment critique et aiguë et qui entretient certains liens avec la crise des opioïdes, par exemple, et le phénomène de l'exclusion. Donc on a là une solution pratique pour un groupe de travailleurs qui est oublié, mais on a aussi par voie de conséquence un effet sur la santé publique,
sur la société,
dans son ensemble.
Malheureusement, les détracteurs de ce genre d'idées novatrices seront souvent les mêmes gens qui vont tenter de balayer du revers de la main le problème lui-même. Je pense qu'en tant que société, il faut changer.
Il est
évident que notre manière de faire ne fonctionne pas, nous amène droit à la faillite.
Oui.
Il faut changer ça. Je comprends les propriétaires de maisons qui disent, bon ben moi j'ai quelqu'un, on en a des cas qui sont venus ici à la Société francophone, des gens qui disent, ben moi j'habite dans le même sous-sol depuis 17 ans. Le monsieur vend sa maison, les nouveaux locataires ne veulent pas de moi, qu'est-ce que je fais? Je payais 450$ par mois, je pourrais pas nous offrir plus. Il faut qu'on arrête. Et le capitalisme, là, c'est pas supposé de marcher.
Alors, on peut peut-être ouvrir une parenthèse sur des déclarations récentes de la maire Lisa Helps, qui a invité les gens de Victoria à accueillir des gens qui avaient un problème d'accès au logement et des gens, y compris des gens qui sont sans abri en itinérance.
Oui. On parle des gens, par exemple, qui ont des Airbnb. Hein, qui loue pour des touristes les fins de semaine.
Airbnb, à travers le site site web Airbnb.
Quelqu'un que très proche de Madame la maire, d'ailleurs, a un Airbnb à 2 500 $ par mois.
C'est ça. Donc, cette déclaration a révélé des contradictions.
Ouais.
Et on vit tous ces contradictions-là. On est finalement, lorsqu'on s'examine, des fois, on voit qu'on a nous-mêmes des contradictions.
Ouais.
C'est nécessaire d'en parler.
Ouais.
Il faut aussi poser des gestes.
Ouais. Ben par exemple, il y a un petit programme qui a été fait à Portland en Oregon, puis eux autres, ils ont 4000 personnes dans la rue. Hein?
Juste pour clarifier, avant que tu abordes le sujet de Portland, juste pour clarifier, pour ceux qui n'ont pas suivi, Lisa Helps a fait une déclaration invitant les gens de Victoria à accueillir des sans-abri chez eux pour des périodes indéterminées.
Ouais.
Mais quelques médias, avec un petit peu de malice, ont fait remarquer à la maire que sa partenaire, sa conjointe, tenait un Airbnb à 2 500 $ par mois dans sa propre maison.
Ouais.
Et Lisa Helps n'a pas posé le geste qu'elle encourageait les gens de Victoria à faire, c'est-à-dire accueillir gratuitement.
Ouais.
Donc, c'est la contradiction dont on parlait à l'instant.
Ton règlement, par exemple, tu disais, pas ton règlement, mais le règlement de la ville qui dit que on peut maintenant déréglementer le jardin.
Oui.
Alors, Portland,
ça, c'est bien.
Portland en Oregon, ils ont ce qu'ils appellent des pods, c'est-à-dire des coquilles.
Oui.
Ces coquilles-là, c'est des mini-maisons.
Des petits refuges.
Des petits refuges, des mini-maisons. Ça peut être aussi petit que juste la place pour un lit. Dans une boîte.
Tiny house.
Mais ça peut être plus petit que ça aussi,
encore?
Un pod. Ça peut vraiment être, à l'exemple, un peu des chambres d'hôtel au Japon. Il y a vraiment de la place pour un individu et son bagage.
Donc, si vous êtes une famille, je dis bourgeoise,
qui a une
sans
maison.
Être péjoratif nécessairement,
maison-jardin,
vous construisez un petit pod à l'arrière, vous pouvez accueillir légalement. Une personne qui est en difficulté d'accès au logement.
Par exemple, vous achetez une remise pour 3 000 $, on est capable d'avoir une remise, on peut y installer l'électricité, peut-être l'isoler pour l'hiver. Bon, voilà, ça vient de vous coûter peut-être 5 000 $. Vous pouvez louer à une personne.
OK. On voit le topo. Est-ce que ça a connu un succès à Portland?
Ça commence. C'est très long. Il faut changer les mentalités. Il y a toujours ce stigma.
Mais on a la même chose à Victoria, désormais.
Il est possible de le faire.
Oui.
Il est possible de le faire. Est-ce qu'on le fera?
À suivre.
À suivre. Au plaisir, Alexis.
êtes de retour dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, votre radio communautaire francophone dans la grande région de Victoria. Je retrouve avec plaisir aujourd'hui, lundi, notre chroniqueur régulier, Teal Phelps-Bondaroff. Bonjour, Teal.
Bon après-midi, comment ça va?
Vous connaissez, chers auditeurs, notre chroniqueur Teal, qui a livré de nombreuses interventions sur le roman post-électoral de Colombie-Britannique. On sait qu'il y a eu plusieurs développements suite au scrutin du 9 mai. Développements qui ont mené finalement à la chute du gouvernement de Christy Clark en chambre fin juin. C'est donc Teal qui nous revient aujourd'hui, mais non pas en qualité d'expert en politique, mais c'est plutôt un autre aspect de sa vie académique dont on va parler aujourd'hui. Teal est un spécialiste des questions entourant la pêche illégale dans le monde, n'est-ce pas Teal?
Ouais, c'est ça.
Donc, qu'est-ce qui t'a mené à t'intéresser à ce sujet?
Bien, c'est intéressant. Je travaille beaucoup avec les organisations de l'environnement. Et mon recherche doctorale était dans la stratégie de l'organisation Sea Shepherd, qui est une organisation qui utilise des stratégies, des tactiques confrontationnelles pour arrêter la pêche illégale et la chasse à baleines.
Sea Shepherd, évidemment, c'est synonyme de Greenpeace. C'est une initiative de Greenpeace?
Non, c'est une organisation différente. Dans les années 60, le fondeur de Greenpeace, Paul Watson, avait eu une différence d'opinion à propos du sujet de la destruction de propriété. Et il a quitté Greenpeace, où il a été poussé à la porte. Ça dépend qui tu demandes.
D'accord.
Et puis, il a fondé sa propre organisation, Sea Shepherd. Dans les années 60, ils ont été en train d'arrêter la baleine piratique illégale dans l'Atlantique.
Oui, et c'est célèbre. Oui.
Il était responsable pour fondre beaucoup de bateaux.
Oui.
Et maintenant, il était déjà, c'est leur 40e anniversaire cette année-là. Et ils sont très connus pour aller contre la chasse à baleines dans l'océan Sud.
Et okay.
J'ai pris quatre mois en faire mon travail de recherche dans l'océan du Sud sur un bateau de Sea Shepherd, le Bob Barker.
Ah bon?
Qui était en train d'arrêter la chasse à baleines. Et alors, mon recherche était donc plutôt la stratégie des organisations de l'environnement. Puis, après ça, et nous pouvons...
Tu as vécu à bord du bateau pendant 4 mois.
4 mois dans l'océan du Sud, alors la région plus difficile
dans l'hémisphère sud.
Ouais. J'ai vu les pingouins, les baleines. C'est très intéressant. Il y a beaucoup d'action. Et nous devrons discuter ça un autre jour parce que j'ai...
Est-ce que vous avez affronté des équipages japonais?
Oui, et nous avons ramassé des engins de pêche illégales. Nous avons affronté les japonaises. Et ce qui était intéressant, cette année-là, les Japonaises, avant que Sea Shepherd arrivait dans l'océan Sud, alors les années 2002, quoi que ce soit, ils amassaient 110% de leur quota de baleines.
Oui, 110, oui. Ouais.
Mais après ça, après que Sea Shepherd arrivait là, après quelques ans d'adopter leur stratégie, l'année-là, quand j'étais là, c'était 2010-2011, les Japonaises ont seulement atteint 11 ou 14% de leur but de baleines. Alors, Sea Shepherd était très effectif pour arrêter la chasse à baleines.
OK. Alors, je t'ai interrompu, excuse-moi, croyant que Greenpeace et Sea Shepherd, c'était la même chose en 2017. Ça n'est pas le cas. Alors, on parle de pêche illégale aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un aspect en particulier dont tu veux parler?
Oui. Alors, j'arrivais au sujet parce que je travaille aussi comme chercheur avec le Blackfish, qui est une organisation qui essaie d'arrêter la pêche illégale dans l'Europe. Et le directeur m'a demandé, alors nous allons introduire un projet qui va investiguer la pêche illégale en Italie. Et il y avait des concerns que les activistes et les investigateurs seront en risque d'être tués ou endommagés par les membres de mafia.
Alors, ah oui, demandé, on parle des membres de la mafia italienne.
Oui, alors la question était, est-ce que le crime organisé travaille dans le système de pêche dans l'Italie? J'ai fait la recherche et j'ai trouvé deux choses. Un, que le crime organisé travaille dans le secteur de pêche.
Ça, c'est confirmé.
Oui, mais aussi, en recherchant le sujet, on trouvait qu'il y a des critères pour déterminer ce qui est le crime organisé. Et les critères sont comme les organisations qui trafiquent en drogue, en personnes, esclavage, des choses comme ça.
Drogue.
Mais aussi, quand nous regardons à la pêche illégale, c'est la même chose. Il y a tous les différents critères d'être une forme de crime organisé. Mmh. Alors, la recherche a changé un peu dans une grande publication. Les personnes peuvent rechercher. On va avoir un lien sur le site web, peut-être.
Mmh. Oui.
Un reportage qui a fait deux arguments. Un, qu'il y a beaucoup de criminalité dans les chaînes de logistique de la pêche. Et deux, que la pêche illégale est une forme de crime organisé transnational.
Alors, que fait l'ONU?
Ah, c'est intéressant. Alors, il y avait deux ans, et l'ONU, ou l'organisation de UNODC, l'organisation de drogue et de criminalité, ont créé une réunion annuelle pour discuter des questions de la crime halieutique. Alors, on dit
pas... Oui, halieutique, donc c'est un mot qu'on entend peu fréquemment. Je vais juste préciser à nos auditeurs que ça veut simplement dire que ça concerne la pêche en mer.
Et c'est ça. Et la raison dont nous utilisons cette terminologie, c'est que la pêche illégale fait référence à seulement l'acte d'amasser les poissons d'une façon illégale. Et il y a beaucoup de façons. Les engins illégaux, pêcher dans une région réglée, quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais il y a aussi tant différents de crimes qui sont liés à la chaîne logistique de la pêche. Alors, par exemple, les personnes amassent les pêches légalement, mais utilisent des esclaves. Et c'est une pratique autour de la monde. Ou peut-être ils utilisent la falsification des documents ou le blanchissement d'argent. Alors, il y a toutes différentes sortes de crimes liés à la pêche illégale. Alors, nous disons maintenant la crime halieutique, mais c'est une terminologie qui est utilisée juste seulement depuis deux ans. Ou trois ans peut-être. Avant ça, c'était la pêche illégale, les différents termes qui étaient utilisés.
Donc, cette étude du cas particulier de l'Italie, c'était au cours de tes études universitaires?
Non, c'était une question de mon... Je travaille comme un consultant avec les différentes organisations de l'environnement. Et des fois, j'ai fait de la recherche sur un sujet, j'ai fait de la recherche stratégique où j'écris des demandes pour l'argent. Et c'était un projet comme ça, dans mon capacité professionnelle de chercheur.
Et ça, c'était avant ou après ton séjour à bord du Sea Shepherd dans les mers australes?
C'était après.
Alors, c'était après, d'accord.
Alors, après mon doctorat, j'ai travaillé avec différentes organisations. Et c'est un peu drôle pour moi parce que je suis un gars de Calgary. Alors, maintenant, je travaille dans la conservation maritime. Alors, c'était un changement un peu bizarre pour moi. Et j'étais très
un gars continental.
Ouais, c'est ça. Et je suis toujours verte sur les bateaux. Je suis pas un peu malade à l'océan, mais... Ouais, alors maintenant, je travaille avec différentes organisations, fais l'application de mon expertise dans le sujet de la pêche halieutique.
Dis-moi, pour ce qui concerne le Canada, est-ce qu'il y a de la pêche illégale au large des côtes canadiennes?
Ça, c'est une bonne question. C'est difficile de déterminer parce que c'est une activité clandestine. Alors, quand nous regardons l'échelle de la problème globale, on dit qu'il y a entre 10 et 20 milliards de dollars par année en commerce illégal, de la pêche illégale. C'est environ 10 à 22% de toute la pêche, la production de pêche globale et illégale. Et les fruits de mer qui entrent l'Europe, c'est entre 50% des fruits de mer qui viennent des sources illégales.
Dans notre assiette.
Ouais, mais ça, c'est une étude de 2009. Et c'est une étude globale. Et il manque beaucoup d'études pour Canada. Alors maintenant, je suis en train de regarder le sujet ici en Canada. Mais c'est difficile à voir parce que c'est une activité clandestine. Mais c'est un grand problème parce que ça endommage l'environnement. Ça endommage la population des poissons. Endommage la sécurité alimentaire. Ça détruit les moyens de vie des pêcheurs légitimes. Et aussi, ça sape la bonne gouvernance, des choses comme ça.
Est-ce que tu recommandes à tes parents et amis de s'abstenir de manger du poisson?
Ben, c'est très... Il y a beaucoup d'autres raisons pour manger pas les poissons. Je suis végétarien. Je pense que beaucoup d'industries saumon ici de Colombie-Britannique sont soutenables et d'une façon légale. Mais il y a beaucoup de différents fruits de mer qui viennent des sources un peu suspectes.
Discutables, oui,
ouais,
suspectes.
Par exemple, les crevettes.
Oui.
J'ai lu beaucoup d'études des crevettes qui, en plus de devenir des sources illégales, viennent des sources qui détruisent l'environnement et aussi qui utilisent des esclavages, des esclaves enfants. Alors, il y avait une étude par le Environmental Justice Agency qui a trouvé que 1 in 3 crevettes vient de Bangladesh a été touché dans la chaîne logistique par un enfant qui travaillait comme un esclave. Alors, c'est des pourcentages un peu effrayants.
Oui.
Alors, je suggère des gens d'étudier bien fort avant de manger les poissons. Il y a aussi des raisons comme les différents métaux qui entrent dans les poissons aussi, des questions de santé.
Oui. Oui, les, surtout dans les poissons de mer ou aussi dans les poissons d'eau douce.
Oui, c'est plus facile de, d'avoir la pêche illégale dans les poissons de la mer parce que c'est des grandes régions qui a, c'est très difficile d'enforcer la loi et de les policier. Alors, on trouve qu'il y a plus d'activités illégales dans ces régions là-bas. Mais aussi, en même temps, c'est très coûteux d'envoyer un bateau à l'océan du Sud, par exemple, pour chercher le Patagonian Toothfish. Alors, nous avons encore la pêche illégale ici en Colombie-Britannique, mais c'est plutôt d'une façon plus petite, je pense. Plus artisanal que des grandes productions, des grands bateaux. Maintenant, on trouve qu'il y a beaucoup de pêche illégale dans l'océan du Sud, mais aussi dans la côte d'Afrique, parce que les pays ont moins la capacité d'enforcer la loi. Alors, les grandes compagnies de pêche prennent avantage à ça et pêchent illégalement dans les eaux des pays qui sont en panne.
Alors, le Sea Shepherd fait un travail symbolique, qu'on peut dire c'est nécessaire, mais ça reste symbolique. Il faudrait une trentaine de navires Sea Shepherd répartis sur la planète pour avoir un résultat satisfaisant.
Mais mon position, c'est pas, il y a un élément symbolique dans leurs actions, mais c'est différent à les actions de Greenpeace. Alors, Sea Shepherd engage en quelque chose qui on décrit comme a direct action, action directe.
Oui.
L'action directe a un élément symbolique, mais en même temps, si personne voit l'action, il a quand même un impact. Alors, oui, Sea Shepherd est seulement, je pense, à ce moment, 7 ou 8 bateaux.
C'est la, déjà, c'est pas
c'est
mal.
La marine la plus grande du monde privée.
Mais qui la finance? Qui donne l'argent à Sea Shepherd?
Les gens. Leur moyen, le modèle de financement, c'est plutôt un moyen white knight, qu'on dira. Alors, ils reçoivent
des mécènes, des philanthropes.
Ouais, c'est ça. J'ai travaillé avec eux comme consultant il y avait quelques ans et nous avons écrit une demande d'argent de la Dutch Postcode Lottery. Et nous avons amassé 8,3 millions d'euros pour acheter un nouveau bateau. Les gens peuvent regarder les images. C'est le Ocean Warrior. C'est très vite. C'est un bateau très beau.
Ah ouais. Alors, donc, la Société des Jeux et Loteries de la Hollande a versé plus de 8 millions de dollars canadiens.
Euros. Alors.
Euros.
Ouais, c'est ça.
Génial.
Et c'était un nouveau bateau construit par Damen, une compagnie de bateaux de, des Pays-Bas. Et, j'avais eu l'opportunité d'aller sur le bateau, son premier voyage, en Turquie, à Amsterdam,
son voyage inaugural.
Ouais, c'était très cool. Il y a pas beau, c'est très vite, il peut, s'il veut, aller tout autour du monde sur, avec un rempli d'essence.
Un seul plein d'essence.
Ouais, c'est ça.
Wow.
Alors, c'est très cool.
Bon, alors le Sea Shepherd fait une partie du travail, mais une autre partie du travail va revenir à l'ONU. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de l'ONU dans les prochaines années?
Ben, il y a des différents moyens. Un, c'est la coopération des gouvernements, mais aussi la coopération des forces policières. Alors, nous voyons maintenant, à un moment, il y a beaucoup de situations où c'est très difficile d'avoir la coopération avec les grands États, parce que c'est un processus diplomatique qui prend du temps, et le temps, c'est quelque chose que nous n'avons pas dans le système de pêche. Les bâtons sont là, ils vont quitter, et le processus des diplomatiques, c'est des fois un peu plus lent.
Oui.
Alors, ce que nous voyons, c'est la coopération entre les différents policiers, les gens. Alors, les réunions chaque année, les gens se rencontrent et parlent des sujets. Nous allons, selon moi, voir plus d'activité par les organisations non gouvernementales. Alors, comme Sea Shepherd, et ou comme Blackfish, ou comme les différentes organisations, les gens, comme nous autres, peuvent aller travailler dans le secteur pour protéger les pêches, et c'est très facile à faire. Alors, par exemple, le Blackfish, engage des gens comme bénévoles d'aller faire la surveillance des activités illégales. Et puis après ça, ils rendent un package d'intelligence qu'ils donnent à les policiers pour aider à leurs activités. Mais selon moi, la chose la plus importante à faire d'une façon de l'ONU, comme vous avez demandé, c'est de changer les règlements, d'encourager les pays de changer les règlements. Maintenant, il y avait la convention de les Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée a une définition très spécifique pour la crime organisée transnationale. Et comme j'ai dit, la pêche illégale...
Oui, ça peut s'appliquer à la pêche illégale.
Tout sauf un petit région.
Okay.
Et ça dit que les crimes fait par les criminels a besoin d'être des crimes sérieux. Et la définition d'un crime sérieux, c'est un crime qui a une punition criminelle de plus de 4 ans dans la prison.
Mais l'esclavage des enfants, c'est un crime sérieux.
Ouais, ça c'est
quand même.
Ouais, ça c'est.
Mais c'est indirectement lié, même assez directement lié à la pêche illégale.
C'est ça. Mais à le moment, il y a un bateau qui, on pense, pêche illégalement. Peut-être il a un pavillon de complaisance ou des différentes techniques qu'il utilise. Et de cette façon, un pays l'arrête et il donne peut-être de punition, c'est un peu d'argent ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est le mot, voyons.
Un pot de vin?
Non, il y a beaucoup de pots de vin, mais à la fin de la journée, les amendes.
Les amendes, alors, oui, pardon.
Le problème maintenant, c'est que les amendes ne sont pas les punitions criminelles et aussi...
Ne sont pas dissuasives.
Oui, c'est ça. C'est presque un coup de faire les affaires.
Oui, oui, oui.
Alors, on a besoin de changer les punitions, des petites amendes et les grandes punitions criminelles. Et de cette façon, les règlements de la convention contre le crime organisé transnational peut être utilisé pour vraiment briser des compagnies, des organisations criminelles qui font la pêche illégale.
Le sablier de l'émission est complètement écoulé. Le temps a passé très rapidement. Teal Phelps Bondaroff, encore merci pour cette chronique sur la pêche illégale. Donc Teal qui faisait une exception un petit peu puisqu'il chronique régulièrement sur la politique britanno-colombienne. Aujourd'hui, on a parlé de pêche illégale. Encore merci Teal.
Merci beaucoup.
Un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie, où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle, conviendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froid dur. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. De mon grand pays solitaire, je crie avant que de me taire. À tous les hommes de la terre, ma maison, c'est votre maison. Entre mes quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers.
Vous écoutez CILS-FM.
Désirez-vous être écrivain pour l'émission Histoire classique diffusée 3 fois par semaine? Écrivez-moi à louise@louisealepin.com sur les ondes de CILS-FM.
Les bras chargés de tous mes mots.